le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 17 Aban, 1403 du calendrier iranien, 7 novembre 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un extrait du discours du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Le Hezbollah doit son évolution extraordinaire à son secrétaire général, Sayyid Hassan Nasrallah, a déclaré le leader de la révolution islamique. Le président iranien condamne l'Occident pour son soutien à Israël afin de l'aider à perpétrer des massacres à Gaza et au Liban. Et le Hezbollah libanais poursuit avec force ses opérations de représailles contre le régime de Tel Aviv. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, affirme que le Hezbollah doit son évolution extraordinaire à son secrétaire général, martyr Sayyid Hassan Nasrallah, assassiné lors d'une frappe israélienne dans la banlieue de Beyrouth fin septembre. Le Hezbollah a évolué d'un petit groupe de combattants à une organisation gigantesque dotée d'une telle puissance qu'elle peut contraindre l'ennemi à battre en retraite et le vaincre finalement, a fait remarquer le leader de la révolution islamique. Démentant les rumeurs sur la perte de force du Hezbollah après le martyre de ses dirigeants, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné. Certains au Liban et ailleurs pensent que le Hezbollah s'est affaibli et ont donc commencé à critiquer ses actions. Mais en fait, ils se trompent et se font des illusions. Le Hezbollah est fort et continue de se battre. Un extrait du discours du leader de la révolution islamique vous sera présenté à l'issue de ce journal. Le président iranien Massoud Pezeshkian a critiqué l'Occident pour sa politique de deux poids deux mesures en matière de droits de l'homme. Le président Pezeshkian a déclaré que ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme gardent le silence sur le massacre d'enfants palestiniens par le régime israélien. Le président Massoud Pezeshkian a également condamné l'Occident pour avoir fourni du soutien financier et militaire au régime israélien afin de l'aider à perpétrer des massacres à Gaza et au Liban. Le président iranien a fait ses remarques lors d'une cérémonie marquant la journée nationale des infirmières en Iran. Les responsables iraniens se sont exprimés à maintes reprises contre le soutien de l'Occident au régime israélien, affirmant que ce soutien encourage le régime de Tel Aviv à poursuivre ses crimes. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a exhorté l'Assemblée générale des Nations unies à suspendre l'adhésion du régime israélien à l'ONU en réaction aux crimes qu'il commet contre les Palestiniens, notamment l'interdiction des opérations de l'UNRWA. Amir Saïd Iravani a tenu ses propos ce jeudi 7 novembre avant une réunion de l'ONU organisée pour entendre un discours sur l'UNRWA. L'Iran appelle la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses en réaction aux actions d'Israël et à suspendre l'adhésion du régime israélien à l'Assemblée générale des Nations unies en raison de ces violations flagrantes de la Charte des Nations Unies et du droit international, a-t-il affirmé. Il a dénoncé cette mesure israélienne comme une tentative de priver les Palestiniens de services essentiels. Le nouveau secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré que le mouvement persisterait dans sa résistance contre l'agression israélienne et était déterminé à forcer Israël à mettre fin à sa guerre contre le Liban. Le cheikh Naïm Rassem a déclaré que l'assassinat de dirigeants clés n'affaiblirait pas le Hezbollah. Il a rendu hommage au défunt leader du mouvement Sayed Hassan Nasrallah, le qualifiant de modèle pour les nobles dirigeants qui suivent la voie de Dieu et y ont fait de grands sacrifices. Le cheikh Naïm Rassem a noté que Sayed Hassan Nasrallah a bâti un parti résilient englobant tous les segments de la société. C'est un parti pour les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes, les gens libres et les résistants. Concernant le processus des pourparlers pour un cessez-le-feu, Naïm Rassem a indiqué que lorsque l'ennemi cessera son agression, il y aura une voie vers des négociations à travers le gouvernement libanais et le président du Parlement, Nabi Berri, qui porte la bannière de la résistance politique. Et enfin, le mouvement de résistance libanais Hezbollah poursuit ses opérations de représailles contre le régime israélien, ciblant les bases militaires et les colonies du régime sioniste au cœur des territoires occupés palestiniens. Lors l'une de ses dernières opérations, les drones du Hezbollah ont directement frappé pour la première fois la base de Belo, utilisée par les parachutistes israéliens au sud de Tel Aviv. De même, le Hezbollah a pour la première fois lancé une attaque de drones sur la base de la marine israélienne à Haïfa, qui abrite une flotte de bateaux lance-missiles et de sous-marins dans la baie de Haïfa, atteignant les cibles avec précision. La base des industries militaires de Zevulun, au nord de Haïfa, a également été touchée par un barrage de roquettes. Une base navale au nord-ouest de Haïfa et le quartier général de Nahal Gershom de la division Galilée 91 du commandement nord de l'armée israélienne figuraient également parmi les cibles. Dans d'autres opérations, le Hezbollah a frappé les lieux de rassemblement des soldats israéliens dans plusieurs colonies. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, affirme que le Hezbollah libanais doit son évolution extraordinaire à son secrétaire général martyr Seyyed Hassan Nasrallah, assassiné lors d'une frappe israélienne dans la banlieue de Beyrouth fin septembre. L'honorable Ayatollah Khamenei a fait cette remarque lors d'une réunion avec les membres de l'Assemblée des experts, ce jeudi 7 novembre à Téhéran. Le Hezbollah a évolué d'un petit groupe de combattants à une organisation gigantesque dotée d'une telle puissance qu'elle peut contraindre l'ennemi à battre en retraite et le vaincre finalement, a fait remarquer le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. le leader de la révolution islamique, a ajouté « Grâce au courage, au tact, à la patience et à la foi de Seyyed Hassan Nasrallah, le Hezbollah a connu une évolution extraordinaire, de telle sorte que l'ennemi équipé de toutes sortes de matériel et d'armes de propagande n'a pas pu, et par la grâce de Dieu, ne pourra pas surmonter ce phénomène merveilleux. » Démentant les rumeurs de la perte de force du Hezbollah, après le martyr de ses dirigeants, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné « Certains au Liban et ailleurs pensent que le Hezbollah s'est affaibli et ont donc commencé à critiquer ses actions. Mais en fait, ils se trompent et se font des illusions. Le Hezbollah est fort et continue de se battre. » L'honorable Ayatollah Khamenei a rendu hommage à Seyyed Hassan Nasrallah et au haut responsable du Hezbollah, Seyyed Hashem Safieddin, ainsi qu'aux dirigeants du Hamas, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar, de même qu'aux commandants militaires iraniens Abbas Nilfurushan, qui ont été assassinés par le régime israélien en septembre et en octobre. Selon le leader de la révolution islamique, les martyrs de la résistance ont conféré à l'islam dignité et honneur, ainsi que la force et le pouvoir. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « Au cours de ces nombreuses années et pendant près de 40 ans, le Hezbollah a forcé, une fois le régime sioniste, à se retirer de Beyrouth, une fois de Tyr, une autre fois de la ville de Saïda, et finalement de toutes les parties sud du Liban et de ses villes, villages et hauts plateaux, et cela signifie que sa capacité a augmenté au fil du temps. » Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a également fait l'éloge du mouvement palestinien Hamas, affirmant que la lutte continue de ce groupe de résistance palestinien contre le régime sioniste a prouvé au monde entier que ce régime a été vaincu. Le régime sioniste avait l'intention d'éliminer le Hamas, mais il n'a pas été en mesure de le faire, même après avoir massacré tant de personnes, ce qui a révélé son visage hideux et sa méchanceté au monde entier, a affirmé le leader de la révolution islamique. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « L'ennemi sioniste a cru qu'en assassinant les combattants et les dirigeants de la résistance, il réussirait à anéantir le mouvement Hamas. Mais le Hamas continue de se battre et de résister, et cela signifie l'échec du régime sioniste. »
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, bonjour, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission, édition de Presse TV français, de débat de Presse TV français, dans laquelle nous allons évoquer les tensions entre l'Iran et l'Union européenne et le fait que l'Union européenne ne cesse d'exercer des pressions sur l'Iran, notamment sur les Iraniens ordinaires, et l'Iran qui exhorte l'Union européenne de cesser ses pressions, l'Union européenne qui ne cesse d'accuser l'Iran d'avoir fourni des missiles à la Russie pour les utiliser en Ukraine. Nous allons évoquer les dernières évolutions également de la région avec nos deux invités d'honneur. Mais avant de vous les présenter et rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a appelé l'Union européenne à mettre immédiatement fin à l'interdiction des vols de compagnies aériennes du pays, soulignant que même le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié les allégations du bloc européen selon lesquelles l'Iran aurait fourni des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Araghchi a déclaré que l'interdiction de vol ne visait que les Iraniens ordinaires et d'autres voyageurs ordinaires. Dans un message publié sur X ce mardi 5 novembre, le chef de la diplomatie iranienne a condamné l'interdiction de l'Union européenne basée sur une affirmation fausse et sans fondement, juste un jour après que le président ukrainien a confirmé qu'il n'y avait encore aucune preuve que la Russie ait utilisé des missiles balistiques iraniens contre son pays. L'Union européenne a récemment ciblé les Iraniens ordinaires et d'autres voyageurs en interdisant à nos compagnies aériennes d'entrer en Europe. Elle l'a fait sur la base de l'affirmation fausse et sans fondement selon laquelle l'Iran aurait livré des missiles balistiques à la Russie pour une utilisation en Ukraine, a déclaré Araghchi. Aujourd'hui même, le président Zelensky lui-même a déclaré explicitement qu'aucun missile iranien n'avait été livré à la Russie. Il est grand temps que l'Union européenne mette fin à cette farce. Prendre pour cible les Iraniens ordinaires sur la base d'une accusation infondée est un acte immoral et erroné. Il faut immédiatement y mettre un terme, a-t-il souligné. À la mi-octobre, l'Union européenne a imposé des sanctions à des compagnies aériennes phares Iran Air, Saha Airlines et Mahan Air pour le transfert présumé de missiles balistiques et de drones vers la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine. Cette interdiction a causé de graves difficultés aux passagers, en particulier aux personnes âgées et handicapées, car ils doivent désormais utiliser des vols de correspondance plutôt que des vols directs. Zelensky a souligné lundi que, selon nos informations, l'Iran n'a pas encore livré ses missiles, réfutant des allégations vieilles de plusieurs mois propagées par les médias et les responsables occidentaux. Iran Air, la compagnie aérienne nationale iranienne, volait vers cette destination dans les pays de l'Union européenne, à savoir Rome, Milan, Vienne, Hambourg, Cologne, Francfort et Paris, ainsi que vers la capitale britannique, Londres, avant que l'Union européenne annonce ses sanctions aériennes.
Voilà, je vous présente nos deux invités. Afin de rentrer dans le vif du sujet, il s'agit d'Arnaud Develay, maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et Bernard Cornu, politologue. Merci, monsieur, d'avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, maître Develay, si vous voulez bien, on commence avec vous. Tout d'abord, en ce qui concerne les allégations les accusations de l'Union européenne contre l'Iran, comme quoi l'Iran aurait fourni des missiles à la Russie pour les utiliser en Ukraine et utiliser ce prétexte pour exercer plus de pression, de plus en plus de pression sur l'Iran.
Oui, bonjour à vous, bonjour à votre invité, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs.
Merci.
De toute évidence, cette rumeur qui date non seulement depuis plusieurs mois, mais probablement depuis un an et demi, hein, j'irais même depuis septembre 2022, hein. Et montée de toutes pièces et peut-être quelque part comparée à cette même rumeur selon laquelle la Corée du Nord aurait déployé un contingent de 12 500 troupes dans les régions du combat. Bien sûr, tout ça n'est en rien avéré, il n'y a absolument aucune preuve tangible. Et on peut penser que cela participe de cette opération montée par la Fondation RAND, centre de réflexion américain très proche du milieu du complexe militaro-industriel, visant à essayer d'internationaliser le conflit en Ukraine, de telle sorte à paver, si je puis dire, le terrain pour un narratif qui les ferait entendre que plusieurs pays sont impliqués en Ukraine, et que donc l'OTAN doit prendre ses responsabilités. C'est quelque part une façon de manipuler l'opinion publique. Donc ce n'est pas surprenant. Si on prend en compte aussi la situation, les tensions qui sont de plus en plus vives, bien sûr, depuis plusieurs mois maintenant, entre l'entité sioniste et la République islamique d'Iran, on peut penser que des groupes de pression proches de l'entité sioniste en Europe font leur travail de lobbying pour essayer justement de créer cette équivalence et ce narratif mensonger afin de cribler, si je puis dire, l'Iran de sanctions supplémentaires, qui, in fine, n'ont de cesse que d'affecter le peuple iranien. Vous l'avez souligné, dans le sens où cela rend les choses compliquées pour les usagers. Et donc, on peut prendre en compte ce dernier événement comme étant le dernier développement dans une vaste campagne de diabolisation de l'Iran.
Merci infiniment pour les explications. Restez en ligne, Maître Develet. Bernard Cornu, vous, comment interprétez-vous ces pressions exercées sous prétexte que l'Iran fournit des missiles à la Russie pour les utiliser en Ukraine?
Oui, cela fait partie d'une campagne très orchestrée pour critiquer l'Iran, pour avoir des arguments dans les opinions publiques. J'ai noté aussi d'ailleurs que hier soir, la chaîne parlementaire a diffusé un film fait par un film très critique sur l'Iran. Tout ceci semble assez coordonné et vise à juste conforter la propagande que diffuse le régime de Netanyahou depuis plus de 10 ans pour faire croire que l'Iran, d'une part, envisage l'armement nucléaire, d'autre part, est une menace pour tout le Proche-Orient, pour la paix, alors qu'au contraire, l'Iran a dit très clairement, d'une part, qu'il renonçait définitivement aux armes de destruction massive, donc chimiques, puisqu'il en a reçu, il en a subi les effets, et les armes nucléaires, et qu'au contraire, il proposait un pacte d'alliance aux pays de la région afin que la sécurité soit assurée par les pays de la région eux-mêmes en bonne entente et non pas avec des interventions des puissances extérieures qui maintiennent des bases dans toute la région et donc menacent en fait effectivement tous les pays de la région à cause de leur puissance installée sur place dans des pays complaisants où les Américains ont pu installer des bases et facilitent aussi les agressions israéliennes illégales envers l'Iran, la Syrie, etc., les assassinats ciblés. Tout ceci est permis par les bases américaines dans la région.
Exactement. Arnaud Develet, peut-être qu'on pourra aussi évoquer les élections présidentielles aux États-Unis et l'élection de Trump. Est-ce que cela va changer la donne dans la région? Est-ce que ça va empirer la situation? À quoi devrait-on s'attendre, que ce soit les relations des États-Unis et l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran, que ce soit aussi vis-à-vis de la région, avec toutes les évolutions et les tensions qu'on a en ce moment dans la région du Moyen-Orient?
Bah écoutez, c'est difficile d'imaginer une situation pire que celle à laquelle nous assistons depuis plus d'un an maintenant. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a fait campagne sur le fait qu'il n'allait pas initier des conflits, mais y mettre fin. Ça reste bien sûr des promesses de campagne. Nous vous rappelons tous de ce qui s'est passé en 2018, lorsque sous sa présidence, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord sur le nucléaire civil. Rappelons-le, c'était quelque chose que l'Iran avait daigné, un processus auquel l'Iran avait daigné se prêter, sachant que l'Iran était parfaitement légitime à développer son nucléaire civil, avait fait les diligences nécessaires auprès du régime de non-prolifération et avait déclaré donc l'existence de son programme civil. Malgré ça, l'administration Trump d'alors avait jugé que le contenu des négociations devait être élargi à des dossiers, des volets autrement plus sensibles, portant sur la capacité de l'Iran à protéger et préserver son indépendance politique et son intégrité territoriale. Donc c'était par rapport au programme balistique de l'Iran et aussi par rapport au soutien présumé de l'Iran à des organisations qui auraient pour effet de déstabiliser la région. De toute évidence, l'administration iranienne d'alors avait benoîtement rejeté ces allégations et précisé que les négociations portaient sur l'enrichissement de l'uranium et rien de plus. Donc il ne faut pas se bercer d'illusions sur la nature d'une administration Trump eu égard à comment dirais-je, la relation qu'il serait amené à avoir avec la République islamique d'Iran. Toujours est-il que dans la situation qui nous importe, à savoir arrêter le génocide en cours et permettre à la justice internationale de faire son travail contre Netanyahou, on peut penser que M. Trump, qui a une mémoire très longue, se souviendra de la façon dont Netanyahou l'avait poignardé dans le dos en 2020 lorsqu'il avait été le premier chef d'État à féliciter Joe Biden, que partant de là, considérant la précarité politique de Netanyahou, et ce malgré ce réajustement de façade au sein de son cabinet, qui pourrait laisser penser qu'il va poursuivre et intensifier sa politique jusqu'au boutiste, n'oublions pas que cette politique ne peut être maintenue que grâce à l'apport continu et au soutien militaire fourni par les États-Unis. Donc Trump a les cartes en main. Et on peut espérer que, quelque part, son animosité, ou en tout cas sa rancune vis-à-vis de Netanyahou et sa volonté de ne pas voir les États-Unis être entraînés dans un conflit régional un de plus, aura, si je puis dire, le dessus sur une alternative que personne ne souhaite, bien sûr.
Merci pour l'analyse, Bernard Cornu. À vous de nous donner, de partager avec nos téléspectateurs et auditeurs votre analyse en ce qui concerne l'élection de Donald Trump et les effets, les conséquences de cette élection pour la région et aussi pour les relations entre l'Union européenne, l'Occident, l'Iran.
D'une part, c'est assez triste, assez désolant que dans ce qu'on prétend être la grande démocratie du monde, en fait, la plus grande et la plus riche et la plus endettée plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement des riches au monde, tant de gens ont voté pour quelqu'un qui est attaqué en justice, qui a des propos machistes, des propos violents, qui seraient illégaux dans d'autres pays, puisqu'il a parlé même d'amener des gens devant le peloton d'exécution et non pas devant la justice. Tout ceci est très désolant et témoigne un peu de la pauvreté, disons, de la culture américaine dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de zones où les gens sont très peu préoccupés de ce qui se passe dans le reste du monde, de la responsabilité de l'État américain avec son déficit budgétaire, son budget énorme pour l'armée et pour les services de renseignement. Et donc, c'est un vote très léger de gens qui n'ont regardé que la surface, quelques propos de Trump, qui reflète aussi la frustration de tous aux États-Unis face à la mondialisation, face à la perte d'emplois à cause de la libéralisation peut-être excessive depuis 20 ans ou 30 ans, face à des pays comme la Chine qui se développent, qui travaillent et qui produisent et qui vendent. Donc tout ceci est très triste et je ne prédirais pas ce qui peut se passer avec Trump, car il est très imprédictible, il est très fantasque. Et donc, même s'il a dit qu'il voulait arrêter les guerres, on sait qu'il est capable d'arrêter, de lancer d'autres conflits dans le monde et d'intervenir très brutalement. Tout dépendra aussi de son entourage, de ses conseillers, de qui sera nommé au ministère de la Défense, au Pentagone et dans les services secrets. Est-ce que ce sera des gens sages et qui voudront la paix, la justice dans le monde, ou ce sera des gens qui réagiront avec un orgueil, une hubris américaine de la même façon que M. Netanyahou?
Merci. Maître Develay, à votre avis, vers où en fait se dirige l'Union européenne à travers ses pressions exercées contre l'Iran durant toutes ces dernières années? Depuis 40 ans, les pressions se poursuivent sans avoir vraiment aucun réel résultat concret pour l'Union européenne ou pour l'Occident. Vers où se mène l'Union européenne à travers ses pressions? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir à travers ces pressions et ces sanctions qui exercent contre l'Iran?
Je dirais tout d'abord que l'Union européenne, politiquement, devient absolument obsolète, sans conséquence. J'ajouterais que l'Union européenne n'est en fait qu'une extension d'intérêts corporatistes militaires et que sous la présidence de von der Leyen, qui est elle-même impliquée dans des scandales divers et variés, on a vraiment l'impression que l'Union européenne, et donc bon gré mal gré tous les pays otages de cette organisation qui est tout sauf démocratique, les intérêts des peuples, de ces pays et des peuples européens soient sacrifiés pour des intérêts privés, essentiellement, de gens qui n'ont de cesse que de mettre en place des politiques bellicistes, que ce soit à l'encontre de la Russie ou à l'encontre de votre pays. L'important, c'est d'alimenter les commandes militaires et de, si je puis dire, servir les intérêts de ces groupements supranationaux qui, tantôt lordent sur les ressources naturelles de la Russie, tantôt sur le contrôle du Moyen-Orient, avec en toile de mire, bien sûr, faire échec à ce qui s'est décidé et ce qui a été réaffirmé à Kazan, malgré les déclarations comme quoi c'était un projet où Vladimir Poutine était plus isolé que jamais, si je puis dire. Ne sert pas du tout les intérêts européens. Et ce sera peut-être un élément positif de la présidence Trump, c'est que l'Europe, en fait, va devoir s'endetter davantage pour maintenir à flot ce projet belliciste, puisque Mme von der Leyen a déjà mis en avant le fait que des fonds allaient être levés, enfin, il y aura une levée de fonds, donc des impôts supplémentaires, tout ça pour servir des intérêts qui, rappelons-le encore une fois, ne coïncident rien avec ceux des peuples européens. Donc je suis malheureusement très pessimiste et quelque part très triste pour les Européens, parce que tant que cette structure illégitime continuera de servir des intérêts obscurs, les choses malheureusement ne sont pas prêtes de changer.
Merci Bernard Cornu. Quel est votre point de vue? Vous êtes de même avis que Maître Develet?
Oui, l'Union européenne divisée au niveau politique n'arrive pas à avoir une stratégie commune pour sa politique étrangère qui soit ferme, claire et indépendante de celle des États-Unis. Le seul espoir, c'est peut-être que la crise de l'OTAN, au temps du nouveau mandat de Trump, fasse que l'Europe, certains pays, se retirent de l'OTAN, ou que l'OTAN se retire de l'Europe. Donc ceci permettrait une évolution un peu forcée pour que l'Union européenne définisse enfin une politique de défense et une politique étrangère commune, et donc son propre armement sans dépendre des fournitures américaines. On en est encore loin, mais c'est pour moi le seul espoir que pourrait amener la nouvelle présidence Trump.
Maître Develet, nous avons près de 2 minutes devant nous, la conclusion est à vous.
Oui, si on prend en compte notre discussion dans son ensemble, je dirais que la page reste à écrire, hein. La page est pour l'instant vierge. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump a quand même remporté une victoire assez éclatante, certainement beaucoup plus significatrice que celle qu'il avait remportée en 2016, avec le vote populaire acquis à sa cause, avec le contrôle des deux chambres, avec 6 membres de la Cour suprême sur 9 qui partagent sa philosophie politique. Donc s'il est vraiment quelqu'un qui a à cœur de mettre fin au conflit et de, si je puis dire, diminuer les foyers de tension dans le monde, c'est maintenant ou jamais. Il a 2 ans pour agir. Est-ce qu'il ne sera pas confronté à des obstacles? Certainement. Rappelons que le Congrès, il y a 1 an et demi de cela, avait adopté une loi qui a justement interdisait à tout président à l'avenir de remettre en cause l'existence et donc l'appartenance des États-Unis dans l'OTAN. Donc c'est quelque chose que Trump Donald Trump doit faire face. Maintenant, Donald Trump a aussi annoncé qu'il souhaitait que les autres membres de l'Alliance contribuent de manière équitable au budget de l'OTAN. Quand on connaît l'état des économies européennes, à bout de souffle, qui ne produisent rien, qui n'exportent rien, qui s'endettent toujours plus, davantage, on peut penser que ce sera une façon pour lui pour des raisons purement pécuniaires, d'isolationnisme et de nationalisme économique, de quelque part provoquer, mettre en place des conditions qui verront effectivement l'OTAN se déliter et se dissoudre. C'est ce qu'on peut souhaiter, quelque chose qui aurait dû être fait il y a déjà 30 ans.
Merci infiniment. Alors, Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Bernard Cornu, géopolitologue, était avec nous pour cette émission durant laquelle nous avons évoqué les tensions de l'Union européenne exercées par l'Union européenne contre l'Iran sous divers prétextes, les pressions et les sanctions qui se poursuivent depuis des années. Mais également, on a dû aussi évoquer l'élection de Donald Trump en tant que le nouveau président américain et ses conséquences, ses résultats et ses effets dans les évolutions de la région. Un sujet qu'on va bien sûr aborder dans nos prochaines émissions. Merci à vous, à toutes et à tous, d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans notre dernier programme, nous avons terminé la lecture et l'exégèse des versets de la sourate 56 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Varia, l'événement. À partir de ce programme, nous commençons la lecture et l'exégèse des versets du chapitre 57 du Livre Saint, la sourate Al-Hadid, le fer. La sourate 57 du Noble Coran compte 29 versets. La sainte sourate Al-Hadid, le fer, a été révélée au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, à Médine, après l'égire. Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate Al-Hadid, le fer, en référence au contenu du verset 25 de la sourate. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 1 à 9 du chapitre 57 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Hadid, le fer. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 1 à 3 de la sainte sourate Al-Hadid, le fer. Puis nous vous en donnerons la traduction.
Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. La sourate commence par un verset qui appelle à la glorification du Seigneur. Glorifier Dieu signifie d'attester qu'il n'y a en Dieu aucun défaut, aucune impuissance et aucune ignorance. Sans aucun doute, la création de l'univers est un signe évident de la connaissance, de la puissance et de la sagesse infinie de Dieu. En fait, toutes les créatures glorifient et louent le Seigneur. C'est quelque chose que toute créature confesse au présent ou au passé, même si nous ne le comprenons pas. Dans ces versets, la propriété de Dieu sur l'existence est mentionnée. À Dieu appartient tout ce qu'il y a dans l'univers de la création. Ces versets du noble Coran nous apprennent que l'univers est un signe de la grandeur et de la puissance infinie du Seigneur. Certains gens peuvent penser qu'ils ont eux aussi la connaissance, le pouvoir et la sagesse. Mais nous devons savoir que notre vie et notre mort est entre les mains de Dieu et que nous ne sommes pas éternels. Voici maintenant les versets 4 à 6 de la Sainte Sourate Al-Hadid, le fer.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et qui en sort, et ce qui descend du ciel et qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Dieu observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Dieu tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Selon la logique coranique, l'univers, avec toute sa grandeur, a émergé au cours de six longues périodes. Et Dieu le Très-Haut a progressivement créé l'univers sur la base des principes et des lois qu'il a déterminées pour ce monde. Contrairement à l'opinion de certains qui croient que Dieu est comme un horloger qui a créé le monde et l'a ajusté, puis il s'est laissé faire, la gestion des affaires du monde, ainsi que sa préservation et sa survie, sont toujours entre les mains de Dieu. Ces versets du noble Coran nous apprennent que la sagesse divine a exigé que le système mondial soit créé progressivement et que ses évolutions soient graduelles. La croyance en la science et la connaissance de Dieu, des états internes et des actions des humains joue un rôle important dans l'éducation de l'homme. Écoutons enfin les versets 7 à 9 de la sourate 57 du noble Coran.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
Croyez en Dieu et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous croient et dépensent pour la cause de Dieu auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur, et Dieu a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Dieu est compatissant envers vous, est très miséricordieux. La croyance en Dieu n'est pas seulement une question de cœur ou de parole. Une personne croit en l'existence de Dieu dans son cœur et le confesse avec sa langue. Mais il est nécessaire qu'elle suit les commandements de Dieu et qu'elle évite ce qu'il a interdit. Ces versets s'adressent aux croyants et disent « Croyez en Dieu et en son messager et suivez leurs commandements, dont l'un est de dépenser sur le chemin de Dieu. Donnez à partir des biens dont vous avez hérité du passé et qui sont désormais en votre possession. » Ces versets du noble Coran nous apprennent que croire en Dieu sans prêter attention à son prochain et sans répondre à leurs besoins, n'est rien d'autre qu'une simple parole. Pour sauver l'humanité des ténèbres de l'ignorance, du polythéisme et de la superstition, il faut se tourner vers le Saint-Coran et d'agir selon ses enseignements. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 57 du noble Coran, la sainte sourate Al-Hadid, le fer. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes.